Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 33e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Tessier, artiste pluridisciplinaire qui vient de sortir coup sur coup les albums La Maison du Regard avec Alexandre Lafleur, ainsi que Bacchus, artiste de l'extase, en compagnie de Jean-Pierre Chansigaud, tous deux publiés aux éditions Moelle Graphique. Marc Tessier, salut.
Salut Jean-Dominique.
Alors, troisième passage au micro d'Entre deux cases. Ouais, t'es un habitué?
Ouais, je suis moins nerveux, là. Je suis moins, mais on le voit pas à radio, ça.
Non. Ben, on le sent pas non plus en personne, fait que ça va. Okay. Ça passe très bien. Écoute, la raison pour laquelle je te reçois, c'est que t'as publié coup sur coup, en mai, deux albums. Et on parle pas de fanzine, on parle d'albums vraiment conséquents. Alors, furent publiés aux éditions Moelle Graphique La Maison du Regard, en compagnie d'Alexandre Lafleur, qui est l'intégrale et même plus de récits cumulés que vous avez réalisés dans les années 90. Et tu as publié également Bacchus, artiste de l'extase, en compagnie de Jean-Pierre Chansigaud. Alors, grosse saison, Marc?
Ben c'est drôle, les gens me disent tout le temps ça, comme avec René Lévesque, puis Dallaire, c'était back-to-back aussi. Puis les gens disent « Wow, t'es productif », mais c'est ça que je disais. Mettons, Bacchus, ça a pris 4 ans de travail. Puis La Maison du Regard, ben, comme c'est du matériel déjà, à part une nouvelle histoire qu'on a réalisée à l'automne, moi et Alexandre, tu sais, La Maison du Regard, ça a été un plaisir à monter, c'était le fun, c'était comme... Tu sais, Bacchus, ben, c'est une autre affaire, c'est 4 ans de travail, de recherche, c'est beaucoup, beaucoup. Fait que c'est bien différent, c'est juste que on dirait que les circonstances de la vie font que les deux sont sortis en même temps.
Et c'est intéressant, ces fameuses circonstances-là, parce que, évidemment, c'est deux albums qui se répondent.
Oui, oui. Je dirais que, oui, parce que quelque part, il y a une similarité dans l'exploration des thématiques, tu sais. Mais d'un point de vue, je dirais, de gars dans la vingtaine, trentaine pour La Maison du Regard, puis là, ben d'un gars dans la soixantaine pour Bacchus. C'est comme, dans le fond, Bacchus, c'est le trajet, c'est que tu vois des auteurs de La Maison du Regard où ils sont rendus.
Oui, voilà, c'est tout le chemin parcouru. J'ai trouvé ça infiniment touchant. Puis bon, évidemment, j'ai collaboré aux entrevues avec Alexandre et toi pour La Maison du Regard. Donc, j'ai vraiment eu l'opportunité de me pencher sur votre travail, de préparer une entrevue, de tout relire votre matériel. Mais je t'avoue que quand j'ai débuté la lecture de Bacchus, tout de suite, j'ai été habité d'une vive émotion. Parce que c'est tout le chemin parcouru. Et si La Maison du Regard, c'est l'idée de se placer face au monde en ouverture, Bacchus, c'est tout ce que tu as reçu, en fait, de ce monde-là. La conséquence de l'ouverture au monde, elle se trouve dans Bacchus. Et Bacchus, pour moi, c'est un album double. Il y a beaucoup de dualité dans cet album-là. Et comme on a beaucoup parlé du théâtre et son double d'Artaud pour La Maison du Regard, je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, dans La Maison du Regard, il y a une initiation au montage photo. C'est sûr que ce qui est prédominant dans cet album-là, c'est le découpage séquentiel, c'est la bande dessinée. Alors que là, quand on arrive dans Bacchus, tout à coup, oui, il y a de la bande dessinée, mais il y a beaucoup de photomontage. Tout à coup, il y a eu un transfert qui se fait. C'est intéressant aussi parce que, bon, le personnage dans Bacchus, Monsieur Mavrias, d'ailleurs, est-ce que c'est un clin d'œil à Billy, ça?
Dimitri Mavrias, ouais. Naturellement.
Bon, OK.
T'sais, même j'ai vu Billy l'autre fois, puis j'ai dit, ouais, c'est un hommage à toi, parce que je
suis wow.
Mavrias. Parce que des fois, Billy, ben c'est un créateur d'exception, qui a peut-être pas fait 10 000 albums, mais chaque album est super riche et intéressant, puis il y a des thématiques qu'il explore, qui sont un petit peu similaires à ce qu'on retrouve dans Maison du Regard. Fait que c'est pour ça que je voulais y faire un petit clin d'œil, parce que je l'adore, Billy.
Mais c'est intéressant parce que le personnage dans l'album, puis on va y venir plus tard, mais on traverse avec lui quatre décennies, des années 50 à 90 environ.
Ouais,
alors
ça.
Que, ben, toi, ton propre parcours, c'est des années 80 aux années 2020 quelques. Donc, pour moi, il y a beaucoup de mise en abîme. Pour moi, Bacchus, c'est une lecture qui est tellement stratifiée, qui est tellement dense, que c'est un album qu'on ne peut pas lire qu'une seule fois. C'est impossible on peut le lire une seule fois, mais...
Non, on peut le lire une seule fois, puis le tirer dans le coin, puis pouvoir
mais
jamais le lire.
Oui, sauf que qu'est-ce que la lectrice ou le lecteur aura lu à ce moment-là? Parce que il y a tellement de matériel.
Mais j'espère qu'il y a une histoire au général qui unit le tout.
Ah oui, évidemment.
Parce que moi je t'écoutais tantôt, je pensais, tu sais, des albums comme René Lévesque puis Un Paris pour Dallaire, c'est plus de la biographie, du documentaire, de la recherche des faits, du factuel. Même si des fois on peut utiliser un petit peu les instruments de la fiction pour relier des événements. La Maison du Record puis Bacchus, c'est plus un travail d'artiste dans le sens que c'est plus personnel, c'est plus des explorations qui sont tournées vers soi puis vers le monde. Fait que, puis il y a toute une dimension de mixage, de multimédia, de travailler la photo, d'intégrer d'autres affaires dans l'histoire pour pas que le récit narratif soit juste véhiculé par le dessin. Mm-hmm. Moi, je trouve ça intéressant de essayer la photo, faire des photoromans, puis tout ça, puis travailler d'autres formes d'expression narrative. Fait que celle-là, je pense que comme dans Maison de rock, Bacchus, il y a de la performance. Dans Maison, il y avait de la performance de vrai qu'Alexandre qui le maquillait, puis on allait faire les fous dans la rue, mais jusqu'en Inde qu'on a fait ça. Ben, dans Bacchus, je pense que je suis plus dans des traditions photographiques de représentation du corps, soit par le photographe lui-même, la photographe, qui parle, qui explore, qui parle de la vie en explorant, en montrant son corps. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui rejoignait aussi l'histoire de la photo. Fait que c'est un album intéressant, mais de toute façon, ça s'inscrit dans une décennie où que, tu sais, les années 60-70, tout ça, d'ouverture, d'explosion, de mix médium, tout ça, fait qu'il y a d'un bouillon, d'une ébullition de culture, d'idées, tout ça qui a été un petit peu écrasé à la fin des années 70, mettons.
Ben d'ailleurs, quand tu parles de performance, pour moi, il y a aussi le jeu.
Oui, oui, oui.
Parce que il faut expliquer aux gens, Dimitri Mavréas, dans la portion photo...
Ben, tu veux-tu que je l'explique un petit peu?
Oui, ben,
ça va être la première fois que je peux... Dans le fond, le livre Bacchus, artiste de l'extase, c'est une monographie. Fait que c'est présenté comme un livre qui montre la carrière artistique de Bacchus des années 50 aux années 90. Donc, tu vois sa production parce que c'est un auteur de bande dessinée méconnu. C'est un photographe aussi. Fait que tu vois qu'on présente des portfolios de ses photos, des photomontages qu'il a fait pour la revue Penthouse, puis après il est allé en galerie, fait que son travail plus personnel, puis c'est entrecoupé de bandes dessinées par son fidèle collaborateur Chance Sigaud qui l'a accompagné toutes ces années-là à illustrer ses scénarios.
Et c'est pour ça que je parlais de stratification au niveau dans les niveaux de lecture, parce que ce personnage-là, en traversant quatre décennies, va aussi traverser des grandes traditions et de la bande dessinée et de la photographie.
Ouais.
Tu parlais de Penthouse, donc de la photo érotique dans les années 70, qui n'a rien à voir avec la photo. Ben, de toute façon, maintenant, est-ce qu'il s'en fait encore vraiment beaucoup de la photo érotique? On est plus dans une industrie de vidéo maintenant, mais...
Il doit en avoir encore, mais pas autant.
Ouais.
C'est ça, si tu peux taper YouTube ou n'importe quoi à cette heure, je sais pas. T'sais. Mais il y a encore des gens qui font de la photo de corps. T'sais. Ça reste une expression, même, ouais. Je te dirais, des communautés trans. Il y a beaucoup de représentations du corps, des changements quand on change de sexe aussi. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de francs. C'est une façon de se mettre de l'avant, de se montrer comme qu'on est, puis c'est aussi de montrer qu'on est des humains comme tout le monde. Là. Fait que là-dedans, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, puis c'est super intéressant de voir ça, tu sais, des jeunes artistes qui mettent leur corps en scène, fait que d'où l'idée de est-ce qu'un vieil artiste peut faire la même chose aussi, de mettre son corps en scène?
Ben en fait, ton corps est en scène dans ce récit-là, et une des choses que j'ai trouvé touchante, c'est qu'il y a une photo de toi qui est très jeune, là, au début vingtaine, là, où tu fais une amorce dans un...
Oui, OK, c'est, là, on irait dans le détail, là, dans les photos.
En fait, c'est juste que j'ai trouvé ça touchant.
Ben, mettons que Bacchus puis Ariane, les personnages, j'ai des vieilles, c'est des vieilles photos. Fait que j'ai pris, bon là, il faudrait dire des punchs, là, mais tu sais, comme Ariane, j'ai pris une de mes modèles qui est Peggy Jones. Mm-hmm. Puis elle, je l'ai photographiée le 25 ans. Puis j'ai toute une banque d'images. Fait que je pouvais la photographier aujourd'hui puis montrer le passage du temps sur le corps, sur le sien autant que le mien. Puis je trouvais ça intéressant aussi. C'est, encore là, c'est une exploration du temps puis le temps qui passe.
C'est quand même assez frontal comme album. En ce sens où, ben justement, on vit à une époque où... la représentation du corps a toujours évolué à travers les époques, les décennies, les siècles. On a juste à penser, par exemple, à la Renaissance.
Ouais.
Le corps féminin à la Renaissance, ce qu'on célébrait, entre autres, c'est les grâces. Hein?
C'est un symbole, c'est un symbole de richesse, parce que si une femme était plus grasse, ça faisait qu'elle avait accès à de la nourriture.
Oui, elle mangeait.
Fait qu'elle n'était pas une paysanne qui crevait de faim à travailler.
Oui, ça. Et la peau très très laiteuse, parce qu'elle ne travaillait pas au soleil aussi. Ouais. Donc. Et c'est intéressant, mais aujourd'hui, la culture du corps, c'est quoi? C'est le corps transfiguré, transformé, botoxé, passé à travers des filtres, beaucoup, beaucoup aussi.
Mais aussi diversifié. C'est que aujourd'hui, tu as accès à des images du corps, toutes sortes de corps, toutes sortes de façons, t'sais. Puis qui montrent une multiplicité de... C'est parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans mode, puis dans photo, puis c'est tout le temps les mêmes types de corps qui est hérité des années 50-60, où toutes les directeurs artistiques étaient habituellement gays, fait qu'ils choisissaient des femmes qui avaient des petits corps, parce que ça rappelait un corps féminin. Fait que tout Twiggy, puis tout ce mode-là qui est parti des années 60 en Angleterre, Bailey, tout ça, les grands photographes de mode, bien, ils ont tous créé une espèce d'esthétisme qui était tout le temps lié à je dirais, comme une diversité de vision sexuelle, tu sais. Autrement dit, tu avais des directeurs artistiques, eux autres, ils amenaient ça, mais là, ils imposaient ça à des gosses straight, puis des femmes, tu sais. Je trouve, quand tu plonges dans l'histoire de la photo, il y a un mélange de... Tu vois, les gens en arrière de certaines choses, c'est pas tout ça, ce qu'on s'attend, puis il y a tout le temps plus de diversité puis de points de vue cachés en arrière de certaines choses. Autrement dit, il faut gratter en dessous de la surface de l'image, parce qu'il y a tout le temps des choses qui se révèlent.
Ben, c'est à ça que tu nous convies. D'ailleurs, je veux faire un parallèle avec l'autobiographie en bande dessinée, et je vais prendre un exemple, Jimmy Beaulieu. Alors, Jimmy Beaulieu, dans certaines de ses bandes dessinées, il se représente...
Bon exemple.
Ouais. Ben, alors, Jimmy se représente. Mais dans le fond, quand on s'intéresse vraiment, puis qu'on creuse, puis qu'on investigue le genre autobiographique, on se rend compte qu'en fait, l'autobiographie, oui, c'est des auteurs, des autrices qui se mettent en scène, mais c'est un prétexte pour parler surtout de ce qui les entoure. Ouais. Donc, Jimmy s'est créé un avatar. Tu t'es créé un...
Mais, OK, ouais. C'est bon, Jimmy, parce que j'ai pensé à Jimmy beaucoup en faisant ce livre-là.
OK.
Parce que, tu sais, moi, j'avais fait une entrevue avec Jimmy, avec moi et Stanley Wayne, on a fait une entrevue
pour
avec Jimmy.
Pour le trip, ouais.
Puis, on lui a demandé, puis un moment donné, par rapport à la représentation des femmes dans les relations entre femmes, puis Jimmy nous a dit que des fois, il y avait de la projection. Il se projetait en femme dans une situation avec une autre femme. Puis, je trouvais ça intéressant, tu sais. Autrement dit, on se révèle, mais on garde des choses privées, puis on utilise la fiction pour se mettre en scène encore plus, puis parler de soi, mais des fois, on veut être pudique, fait qu'on va pas l'annoncer, le claironner partout, tu sais. Mais il y a des choses dans Jimmy qui sont très personnelles dans tous les niveaux, c'est super intéressant. Mais c'est ça. Mais j'ai pensé beaucoup à Jimmy aussi, parce que des fois, Jimmy, moi, l'idée là, de faire quelque chose d'érotique là, dans Bacchus, c'est d'aller chercher quelque chose de joyeux. Je suis comme tanné que... Moi, pendant des années, tu vois des représentations, surtout que tu représentes la sexualité, tout ça, dans des médiums de masse. Il y a un côté négatif, tu sais, tu prends les films d'horreur, un couple baise, ils se font tuer, tu sais. C'est comme tout le temps, le message que t'envoies, c'est pas bon. Puis c'est très catholique, très péché, tout ça, puis ça, j'aime pas ça. Puis il y a quelque chose, quand Jimmy est arrivé dans le paysage de la BD québécoise, qui a comme fait une petite révolution, tu sais. Il arrivait à quelque chose qui était plus fun, plus doux, il y avait du plaisir, de la joie, il y avait aussi du drame, de la tristesse, tu sais. Mais Jimmy apportait quelque chose, puis mais je pense qu'il y avait une petite résistance. Fait que je suis tout le temps curieux aujourd'hui de voir est-ce qu'on a évolué depuis que sorti Comédie pornographique.
Comédie sentimentale pornographique, qui est un extraordinaire titre.
Ouais. Mais je me rappelle, il m'a dit quand c'est sorti au Québec, les libraires ne savaient pas où placer ça. Ils étaient gênés. Ils mettaient ça sur plastique. Ils le mettaient dans le coin là-bas. T'sais. Fait que les gens n'avaient pas accès. T'sais. Puis je trouve ça dommage parce qu'il est génial ce livre-là. Puis ça parle, puis c'est ça. Fait que je voulais parler un petit peu, mais d'une autre façon, parce que Jimmy, il parle de son âge, puis moi, je voulais parler de mon âge. Fait que dans ce sens, c'est que tu as accumulé une expérience, tout ça. Fait que tu as des observations, tout ça, puis tu veux juste communiquer ta vision, tu sais, comment toi, ta voix rendue à certains points dans ta vie. Puis je voulais parler de la sensualité, d'érotisme. Fait que c'était intéressant de prendre Bacchus, c'était vraiment le véhicule parfait pour ça. Surtout que Bacchus, ben, c'est quoi? Moi, il est le dieu de bien des choses. On parle surtout du vin, puis tout ça, de la fête, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'il est le dieu des excès, puis il est le dieu des artistes. Parce que justement, les artistes, ils vont dans les excès. Ils essayent des choses, ils trippent, ils boivent, ils se défoncent. Ils font plein de trips. C'est ça que je trouvais dans Bacchus. Puis Bacchus, il y a ce côté-là masculin, féminin. Fait que c'est une espèce de David Bowie qui plaît à tout le monde, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme personnage, tu sais. Il n'y a pas de limite. Autrement dit, on ne voit pas de catégorie. Telle orientation, tel nom, tu sais, Bacchus, c'est tout masculin, féminin, tout ce qui est entre les deux, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant comme personnage.
Alors, moi, j'ai vraiment envie d'explorer avec toi les coulisses et les décisions quant à la construction du récit. À quel moment tu décides de faire intervenir la bande dessinée? À quel moment tu dis non, là, prédominance prose? Non, on va aller du côté de la photo. Tu sais, je pense à ton collaborateur Jean-Pierre Chansigaud. comment s'est passé le travail avec lui? Parce que forcément, lui, il ne devait pas avoir une vue d'ensemble du projet.
Non, il ne l'a pas encore. Okay. Non, mais c'est bon parce qu'il m'a écrit. Puis là, après le festival, il s'est mis à travailler. Puis il n'a pas eu le temps. Là, fait qu'il m'a dit, il a bien trippé au festival, mais il n'a pas eu le temps de le lire. Mais il va le lire parce que ça va être pour lui la première fois qu'il voit tous les éléments qui se relient ensemble, tu sais. Fait que c'était correct. Moi, c'est comme travailler en tant que cinéaste. Moi, je suis le réalisateur, puis Jean-Pierre, c'est le directeur photo. Fait que Jean-Pierre, il a pas besoin de savoir toute l'histoire au complet. Il a juste besoin d'éclairer ses scènes à la perfection. Ouais.
Ah, c'est une belle analogie. Oui, c'est une belle analogie, ça.
Fait que c'est...
Ouais. Parce que, bon... entre autres, il y est question de l'histoire de la bande dessinée, mais c'est aussi l'histoire de l'art en général.
Oui.
D'ailleurs, je voudrais citer un extrait à la page 5 qui se lit comme suit. « Le corps et sa représentation sont avant tout des éléments narratifs éclairant l'époque où ils furent créés. Le corps raconte une histoire, celle des changements sociaux qui balisent la société. » Alors, en fait, ça, c'est les fondements même de l'histoire de l'art, là.
Ouais.
La représentation du corps. Puis c'est drôle parce que comme j'essayais d'expliquer tantôt, c'est difficile, et je dis bien essayer, parce que on a un rapport très, très contradictoire, moi, je trouve, au corps, parce que jamais ne fut-il autant dévoilé grâce aux multiples plateformes auxquelles on a accès en 2024, mais jamais autant il y a eu de filtres, et il y a eu, au niveau esthétique et au niveau médical, autant d'options, d'interventions qui peuvent transformer le corps, qui peuvent... venir retoucher certaines imperfections. Ce qui fait que...
Ou le transformer en d'homme à femme, femme à homme. Ou t'sais,
oui, c'est... oui, on va, oui, effectivement. Mm. Et c'est jusque-là. Donc, tout à coup, le corps, c'est plus une matière immuable. Il y a quelque chose qui se travaille, il y a quelque chose qui se transforme. Mais c'est ça. Donc, je trouve qu'on vit à une époque où on ne voit pas... On voit des représentations de corps. Mais c'est comme si on ne voyait plus vraiment ce que c'est que des vrais corps. Et d'autant plus pour des gens un peu plus âgés.
Mais c'est ça. À un moment donné, j'en parle à la fin. Là. Il y a un photographe canadien qui a photographié sa... Il s'est photographié nu, puis il a photographié sa mère qui avait peut-être 90 ans. Il l'a photographié nu, tu sais. Puis la première fois que j'ai vu ça, c'est choquant, tu sais, parce que t'es pas habitué de voir ça. Un corps aussi vieux, la nudité, puis c'était... mais c'était des belles photos. C'est ça que j'ai trouvé. Des fois, c'est intéressant qu'on... Les artistes, là, qu'est-ce qu'on ferait sans les artistes? Parce qu'ils nous amènent une vision, puis il faut accepter des choses, des fois, plus vite que n'importe quel législateur avec 10 000 lois. Là. Tu sais, un artiste t'amène avec une image de représentation, puis c'est comme, OK, ça te fait réfléchir, ça t'arrête, ça te pose un instant, puis c'est le contraire des images aujourd'hui qu'on souhaite. Puis il y a des images, des fois, que ça te hante, puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis le corps, ben il faut le montrer, il faut avoir plus, parce que même si on les voit plus, de corps partout sur l'Internet, partout, ils sont pas contextualisés. Puis il y a aussi, c'est de surface. Puis moi, ce que je trouve intéressant de faire un livre, c'est aller en dessous de la surface, sous la couverture.
Oui, et Dieu sait que tu nous y amènes, parce que tu es, et là, je ne veux pas utiliser une formule choc facile, mais il y a une mise à nu chez toi dans l'interprétation du personnage. C'est-à-dire qu'à l'image, tu t'y dévoiles
Mais je sais pas ça, tu sais. Moi, je suis un petit peu, je suis contraire de toi. Je suis un acteur manqué. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça jouer, tu sais. Puis je trouve ça drôle, c'est un jeu, tu sais, puis ça revient à Artaud, puis à la maison du regard. Fait que si je me mets en scène pour l'histoire, si je me vois pas moi être en scène.
Mais non, mais tu comprends? C'est ça jouer, c'est ça. Exactement,
c'est
ça,
le personnage jeu qui est là pour moi. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais en même temps, on est tous un petit peu vaniteux, puis des fois j'étais là, oh my god, j'ai quelques livres de trop, oh my god, tu sais. Puis comme c'est réalisé sur plusieurs années, ben je vois que j'en ai perdu des livres à chaque année. Je pense que la façon, si tu te mets en scène, tu vois ton corps, ben ça fait quand même, c'est bon, ça donne un recul. Puis je trouve que c'était sain parce que ça me fait un petit peu m'accepter un petit peu plus, puis être mieux dans ma peau de faire ça. Fait que c'est genre de, c'est comme des autothérapies qui coûtent pas cher parce que tu le fais, ben c'est, ça coûte cher, peut-être ça coûte cher à l'éditeur. Là.
Ouais, ben je m'en allais là parce que il faut le dire, hein, c'est un super bel objet, c'est un bel ouvrage. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi, puis je veux qu'on en parle, toute la portion prose. J'ai pas été... Je pense que c'est de tout ce que j'ai lu de toi, je pense que c'est là où t'es allé vraiment le plus loin au niveau de l'exploration. Il y a quelque chose dans ta plume, dans ta prose qui
Mais ça, c'est proche d'un autre livre que j'ai fait, « Ici sont les monstres ».
Oui.
Je trouvais qu'il y avait des bandes dessinées là-dedans aussi, peut-être moins que dans celui-là, puis il y avait plusieurs collaborateurs, ce qui donnait moins une unité, mais il y avait des photos, mais il y avait des morceaux de texte aussi plus longs, tu sais. Parce que ça, je trouve ça intéressant.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, évidemment, pour tout le parcours de l'histoire de la bande dessinée, là-dedans, tu revisites quand même des moments clés de la bande dessinée mondiale. Entre autres... Vous faites référence là-dedans à... Ben mon Dieu, vous. Alors, Dimitri et toi. Tu vois, je suis tombé dans le... Je suis tombé de l'autre côté, là, dans le jeu du double. Mais il y a Modern Lovers. Des éditions EC Comics. Et pour vrai, quelqu'un qui va lire cet album-là, puis qui n'a pas une connaissance encyclopédique de la bande dessinée, tout à coup, peut s'interroger à savoir qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que je suis dans le réel? Est-ce que je suis dans le fantasmé? Il y a toute la séquence aussi à la Crumb, là, LSD Comics. Il y a d'ailleurs une séquence de Jean-Pierre où vraiment ça m'a fait penser à du André Monti.
Je pense que c'est celle quand ils sont sur l'île.
Là. Oui, voilà, exactement. Là, je la trouve pas, ça fait exprès. Mais c'est, ben, d'ailleurs, il y a un extrait qui est paru dans la critique du Devoir, ouais. Là, en visuel, en accroche. Là. Donc, moi, c'est un livre, Marc, qui m'a profondément bousculé et touché. Parce que c'est une lettre d'amour à l'art en général. Et c'est ça qui est admirable dans ton livre, c'est que c'est de la bande dessinée, mais tu sais, c'est une œuvre pluridisciplinaire, donc, et dans ton approche photographique, encore une fois, c'est stratifié. Des fois, je me disais, oh my God, ça me fait penser à du Dave McKean.
Ouais, stratifié.
Tu développes toute une fantasmagorie. Et ce qui est fou, c'est que...
Mais c'est comme une construction. T'sais. Pour moi, il y a quelque chose... C'est ça, quand tu dis, quand une approche, tu sais, un artiste, c'est pas limité parce que dans un médium, moi, je fais pas de la sculpture, mais un livre, je vais le sculpter. Fait que c'est puis quand je dis ça, c'est comme, tu sais, la maquette de Bacchus, là, je l'ai travaillée pendant 2 ans. Parce que je trouve, j'ai eu une discussion avec une éditrice une fois, puis elle me disait, ben, c'est pas le rôle de l'artiste de faire le livre. Je dis, non, moi, ça fait partie de ma démarche. Pour moi, l'objet narratif, le livre est un objet narratif. Il doit être conçu de la couverture jusqu'au dos comme un objet narratif. Fait que chaque élément doit apporter quelque chose à l'ensemble. Mais c'est pas une pensée qui est partagée par ben des gens qui vont te faire. Tu regardes surtout en bande dessinée, le format d'album. Tu sais, le 48cc ainsi nommé par Jean J.C. Menu, tu sais. Ouais. Puis je trouve c'est, tu sais, on déroge pas de ça. Puis moi, j'ai eu des discussions souvent avec des éditeurs que, oh non, tu peux pas mettre la page de remerciement de crédit d'auteur à page 3, c'est tout le temps comme ça. Non. Puis là, je dis, voyons, pourquoi c'est tout le temps comme ça? Tu sais, il n'y a pas aucune loi dans l'édition qui dit que c'est tout le temps comme ça. Puis des fois, il y en a qui m'en sortent des lois. Ouais, il faut avoir une page. T'sais. Non, t'sais, le livre en tant que tel, si c'est un objet artistique, ben, faut le travailler. Puis j'en ai plein de livres comme ça que les artistes ont fait des choses fantastiques avec le format. Puis ça m'attire beaucoup. T'sais. Peut-être en tant que designer au niveau de faire un livre, mais l'objet narratif, c'est un objet narratif. Puis c'est intéressant de le travailler un peu, le pousser un peu plus. Puis je pense qu'avec Bacchus, j'ai réussi parce que. Je trouvais qu'une fois, quand tu le fais sur l'ordinateur, c'est pas la même chose que de l'avoir dans tes mains. Puis quand tu l'as dans tes mains, comme tu l'as dit, j'ai simulé, on a fait une fausse couverture de BD underground des années 70 américaines. Puis quand tu tournes la page comme c'était la couverture est insérée dans le livre, tu tombes dans l'histoire. Puis même chose, j'ai fait une fausse couverture de Penthouse. Ouais. Puis quand tu tournes, ben tu tombes dans la biographie en bande dessinée de Bob Guccione. Fait que on dirait que tu as un livre à l'intérieur d'un livre, mais tout est fait ensemble. Pour faire un tout, tu sais.
Mais ce livre-là, pour moi aussi, c'est le cumul de tes expériences passées, notamment d'éditeur aux éditions Trip. Parce qu'aux éditions Trip, t'as monté les livres, t'as mis les mains. Tu sais, c'est toi qui as fait vivre cette structure-là.
Ben moi puis Stanley, parce que Stanley aussi, on faisait moitié-moitié, puis on s'envoyait les maquettes. Fait que tous les deux, on approuvait. Tu sais, c'était ça la force. Stanley, il avait une vision beaucoup plus artistique de la bande dessinée, plus près de la peinture, puis de quelque chose de figuratif qui est contemporain. Puis moi, je m'accordais parfaitement avec sa vision, puis c'est ça qui faisait notre force ensemble. Fait que quand on faisait des maquettes, mais aussi chacun faisait les maquettes de certains livres, puis c'est de même qu'on a appris. T'sais, moi, je suis parti de... Si on parle de la Maison du regard, quand on l'a fait, là, des années 90, on a engagé Marc Richard, qui est un super graphiste. On savait pas comment faire ça. Puis tout ce cheminement depuis aujourd'hui, ben maintenant, c'est moi qui monte tous mes livres.
Là. Ben c'est pour ça que, pour moi, Bacchus, artiste de l'extase, c'est... Pour moi, c'est la plus belle manière de prendre conscience de tout ton chemin parcouru. Parce que dans cet album-là, c'est le cumul de toutes tes expériences, de toutes tes connaissances, de tes pratiques diverses et empiriques de la bande dessinée.
Et de la photo.
Et oui, c'est ça. Et de la photo. Et donc, c'est un livre, en ce sens, qui est éminemment personnel et qui ne ressemble à rien.
Ouais, c'est le fun, ça.
et c'est ça, c'est comme, lire, embarquer dans Bacchus, artiste de l'extase, c'est comme partir en voyage sur un coup de tête en ne sachant pas où on s'en va. Donc, c'est la liberté totale de se dire, OK, on se met dans une position où on reçoit les choses, où on demeure là, dans une extrême fragilité et ouverture.
Ouais, ben ça parle beaucoup d'intimité. T'sais, ça parle de relations de couple, ça parle de relations plus ou moins toxiques, de bonnes relations, de relations qui se terminent, de relations qui commencent. Ça parle de séduction, de sensualité. Ben, c'est pour ça que c'est artiste de l'extase. Fait que tout autour, chaque histoire, chaque chapitre dans le livre, l'extase revient à un certain moment donné. Fait que c'est une exploration de l'extase sous ses différentes formes. Puis qu'est-ce que ça veut dire, l'extase? Puis c'est tellement différent pour chaque personne. Puis tu sais, il y a des affaires, tu sais, on parle, peut-être tout est disponible, tu peux pogner tous les livres, mais entre êtres humains, des fois, on parle plus de certaines choses, tu sais, parce que c'est correct, on peut le trouver sur Internet, mais des fois, c'est intéressant d'aborder des affaires qui sont plus intimes. Puis je pense que c'est ça qui est, je pense, réagir à ça. Mais moi, j'ai fait un album que je voulais lire. Tu sais, c'est comme quand on parle d'érotisme en bande dessinée, tout de suite, tu vois Manara, on parle de Jimmy. Mais moi, je suis pas Jimmy, puis je suis pas Manara, puis je voulais pas faire comme eux autres. Tu sais. Fait que je voulais un petit peu aborder ça. Puis je me rends compte que dans les bandes dessinées de Jean-Pierre, il y a pas grand sexe en tant que tel, il y a juste la période qui mène à la séduction, puis après, tu vois après, tu sais. On dirait que en tant que tel, l'intimité de voir des gens baiser, ça m'intéressait pas. Moi, c'était la séduction, le dialogue, comment deux êtres humains se séduisent, se charment, s'interpellent, tu sais. Ça, je trouvais ça intéressant. Ça, je trouvais ça sexy puis sensuel.
Oui, c'est la construction du désir, en fait.
Oui, puis pas juste, tu sais, parce que c'est ça, si les gens, ils pensent qu'ils vont pogner du charnel, c'est pas ça qu'ils vont pogner ben, nécessairement dans Bacchus, mais tu sais...
Mais, et c'est fou, parce que je me suis rendu compte à quel point, en te lisant, à quel point, effectivement, on côtoie rarement en art la construction du désir. On arrive souvent devant le fait accompli, devant l'acte, devant le moment, mais... Et on vit dans un monde où on est tellement pressé maintenant, où on est tellement sollicité que tout à coup, être habité d'une émotion profonde et sincère, d'être habité d'un désir qui prend de l'espace en nous peu à peu, c'est vraiment troublant. Parce que je me rends compte, moi, comme homme de 48 ans, que à la lecture de ton album, je me suis dit, ah ouais, ok, donc moi, on dirait que je me donne plus ces moyens-là, et pourtant, je veux dire, moi aussi, à la base, je suis un artiste. Mais je suis tombé dans le piège, comme la grande majorité des gens. C'est-à-dire qu'on vit une vie tellement effrénée que là, tout à coup, qu'est-ce que c'est véritablement désirer? Qu'est-ce que c'est...
Mais c'est aussi vieillir. Puis comment le désir vieillit? Puis, tu sais, puis je t'entendais parler, puis moi, je le dis tout le temps, un de mes héros littéraires, c'est Kurt Vonnegut, puis il a commencé à écrire dans cinquantaine, dans fin cinquantaine. Puis c'est, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'on dirait qu'il a attendu d'avoir une expérience de vie, puis de former son point de vue, que quand il est arrivé à écrire, ben ça l'a maturé assez vite, puis ça l'a donné un style très distinctif. Puis je trouve que des fois, les voix des personnes qui ont de l'expérience, c'est le fun de les entendre, parce que on dirait qu'il y a un petit peu plus de profondeur que, je dirais, tu sais, comme La Maison du regard, ça a été fait dans notre vingtaine, trentaine, à moi puis Alexandre, puis il y a un sentiment de révolte de vis-à-vis de la société, ouais. Tu sais. Puis on passe tout à travers ça, puis je me dis tout le temps, c'est le fun de la révolte, mais après, comment tu restes fidèle à tes engagements, mais pas te décourager, parce que c'est dur de changer les choses. Fait que, tu sais, puis des fois, je trouve qu'à l'intérieur d'un livre, on peut le faire changer les choses, puis ça peut être juste une petite graine qui motive les gens, mais il faut le faire quand même, tu sais.
Et c'est vrai que on vit beaucoup aussi dans un monde de jeunesse, et donc là, tout à coup, la perspective d'un homme dans la cinquantaine, dans la soixantaine, le regard de quelqu'un qui a vécu, mais qui lui reste, ceci dit, encore à vivre, ça aussi, c'est assez intéressant, c'est assez inédit, en fait, parce que pour moi, cet album-là, c'est comme un constat, pas de milieu de vie, mais c'est comme s'il y a encore de l'exploration à faire.
Non, mais hein?
En fait, c'est ça. C'est que... Et c'est pour ça que, pour moi, cet album-là est si rare. C'est que c'est ni un... Cet album-là n'est pas une fin en soi, c'est une invitation à la poursuite de...
Ben, tu sais, quand... mettons, moi j'ai 62, là, puis des fois, je me sens encore... Je sens encore l'enfant en moi. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun, là. Mais tu sais, t'as l'impression que t'es tout le temps plus jeune que l'âge physique de ton corps, tu sais.
Ouais.
Puis, des fois, bon, tu peux te péter la gueule à faire des niaiseries parce que t'es pas conscient de tes limites, là. Mais il y a quelque chose de fun à retrouver un petit peu cette énergie-là, puis cette... ce plaisir-là de la vie. Je pense, tu sais, en vieillissant, le danger, c'est devenir amer, tu sais. Voir les choses chialer, puis être pas content, avoir une grosse insatisfaction de quelque chose que j'ai pas réalisé, mes rêves. Mais je simplifie, mais je dirais que, tu sais, puis comparé à quelqu'un qui s'est battu, qui a fait des sacrifices, puis à un moment donné, ben, t'es arrivé à un point, ben, j'ai réalisé, je suis content, je suis satisfait, je suis heureux. Tu sais, dire que, bon, Chris, je peux le dire, j'ai une parcelle de moi qui est heureux, qui est en paix, rendu là. Puis là, je regarde en avant, puis je dis, ah, il y a plein d'affaires belles, il y a encore des choses, je m'émerveille encore. Fait que si je voulais, à travers Bacchus, communiquer cette affaire-là, que bon, tu sais, ça n'arrête pas à un certain point, c'est continue la vie. On est tout le temps en train d'absorber, digérer, puis découvrir des nouvelles choses, des choses qui nous stimulent. Oh, ça s'arrête pas, tu sais. Fait que c'est un petit peu le message que je voulais dire là-dedans. La quête de Bacchus, ça s'arrête pas. Puis à la fin, ben c'est ça, j'ai des images, c'est un petit peu traditionnel, mais tu sais, il enlève son masque, il passe à d'autres choses, puis le masque est là pour quelqu'un d'autre pour le prendre. Puis je pense qu'il y a une passation, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait de la BD, puis un moment donné, j'arrive à un point que je suis satisfait de ce que j'ai fait, puis je suis prêt à laisser aller, puis laisser la place à d'autres personnes, parce que je veux faire d'autres affaires. C'est...
Oui, mais l'album aussi, c'est une passation aux lectrices, à la lectrice ou au lecteur aussi, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai... Ouais. C'est beaucoup comme ça que j'en ai fait l'expérience, et c'est pour ça aussi que je suis sorti de cet album-là vraiment bouleversé, parce qu'en fait, cet album-là me dit « c'est pas terminé, loin de là ». Et il y a aussi cette idée, et c'est pas la première fois que t'en parles, cette idée de faire de la bande dessinée adulte. Et faire de la bande dessinée adulte, c'est pas glisser de la nudité gratuitement pour dire
non.
Hey, c'est adulte.
Ben, mais tu dis ça même avant, la bande dessinée pour adultes, là, 20 ans, c'était de la bande dessinée érotique exclusivement. Ouais. C'est pas une bande dessinée qui avait des propos matures, qui parle de ce qu'on vit après 30 ans, 40, 50. C'était stigmatisé, c'était ça. Fait que là, moi, à ce temps, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais. Puis je dis, moi, je fais de la bande dessinée pour adultes. Parce que je fais pas de la bande dessinée pour adolescents, ni pour enfants, tu sais. Puis il y en a qui en font super bien, mais je préfère la bande dessinée pour adultes parce que c'est un créneau, je trouve, qui reste à explorer parce qu'on n'a pas tant que ça de la bande dessinée pour adultes. Nous autres, moi puis toi, on connaît la crème de la crème, puis il y en a de la bonne bande dessinée pour adultes, incroyable. Mais on dirait que ces choix-là, ces auteurs-là, ils se rendent pas tout le temps aux gens qui achètent de la bande dessinée comme moyen de divertissement. Il y a un monde entre quelqu'un qui va acheter Bacchus et quelqu'un qui achète l'Iris Blanc, le dernier Astérix. Là.
Non, mais à la limite, maintenant, dans les bibliothèques et dans les librairies, ils ont réglé le problème en appelant ça la section roman graphique. Fait que ça, roman graphique, c'est bon, ça c'est pour les adultes. Mais encore là, je veux dire, encore là. De toute façon, je veux pas revenir sur le débat de la terminologie du roman graphique comme tel, mais cette idée que tout à coup, je pense qu'on utilise, entre autres, ce terme-là, pour justement ne pas trop se casser la tête et dire, OK, ça, c'est pas de la série jeunesse, c'est pas ado, c'est de la bande dessinée adulte.
Non. Mais tu sais, en littérature, c'est quoi? Y a-tu littérature pour adultes, littérature...
Non, sauf que le problème, c'est que tu le sais, Marc, la bande dessinée, au point de départ, la grande majorité des lectrices, lecteurs entrent en contact avec ce médium-là à la jeunesse. Et longtemps, et même encore aujourd'hui, les gens qui n'ont pas une grande culture de la lecture, pour elles et eux, la bande dessinée, c'est un médium jeunesse. Combien de fois, moi, je me fais dire par des gens, « Ah oui, t'écris encore ces affaires là pour enfants dans le journal de Montréal. » Je fais « Oui, oui. »
Ben, c'est drôle que tu dis ça, puis ça revient à Bacchus. Pour moi, je pensais, c'est où qu'il y a eu la cassure? Parce que moi, j'étais baigné dans franco-belge quand j'étais jeune. Mm-hmm. Fait que j'ai tout lu les classiques. Mais moi, qu'est-ce qui a cassé cette affaire-là de BD, c'est tomber sur Chrome puis la BD underground américaine. Tu sais, Shelton, tout ça, l'expérimentation, les BD qui parlent de drogue, de sexualité, tout ça, c'était comme pouf, c'était une claque d'en face, Binky Brown, tu sais, et c'est comme le début de l'autobiographie, le début d'une petite révolution, puis c'était une révolution, tu sais, les headshops, les BD, Chrome avec son landau de bébé dans Hate Ashbury qui vend ses trucs, tu sais, c'est des histoires qui sont rendues mythologiques, mais... ça, quand j'ai lu ça, c'était comme aïe aïe aïe, waouh waouh.
Oui, t'sais. Mais c'était aussi une prise de position politique, c'était aussi une attaque contre le pouvoir en place, contre l'establishment
ouais,
aussi.
Oui, justement, tu sais, quelque chose d'une culture conservatrice opposée, qui c'est, fait que des artistes s'opposent à ça parce que ça restreint. C'est tout ce qui restreint, tu vas tout le temps avoir un mouvement qui, non, on veut la liberté. Ouais. Fait que, il y avait quelque chose là-dedans qui, moi, ça m'a changé à tout jamais. Puis à partir de là, des underground, je suis tombé sur Chester Brown, Yummy Fur. Puis là, ben, ça a été, ça a pas longtemps que ça a été l'explosion avec Julie Doucet, Seth, Joe Matt, puis Chester Brown, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est tout des BD pour adultes, là. C'est pas des choses, ben, peut-être plus fun. Il y en a qui sont plus pas plus fun, mais ça reste que c'est du bon stock, là. Puis encore là, aujourd'hui, c'est ça, qu'est-ce qu'on met de l'avant souvent? On met de l'avant une BD peut-être plus pour adolescents. Des fois, j'ai l'impression qu'on met de l'avant une BD pour rendre ça accessible pour que les gens en achètent plus, tu sais. Mais moi, je continue à croire que l'identité de la bande dessinée québécoise se définit avec une bande dessinée pour adultes. Tu sais, ce qui... Puis même le Red Ketchup, c'est rendu des adultes. Mais tu sais, Jimmy Beaulieu, c'est une bande dessinée pour adultes. Puis c'est intéressant. Puis tout, tu sais, au début des années 2000, tous ceux qui ont du succès, tu sais, même Michel Rabagliati, est-ce que c'est une BD pour enfants? Non. Pour adolescents? Non.
Fait que c'est... Mais pourtant, c'est lu dans les écoles. C'est ça qui est drôle aussi.
Ouais, mais là, on parle, tu sais, stratifié. Il y a l'identité québécoise, l'identité montréalaise à travers le travail de Michel. Ouais. Mais en même temps, c'est des relations de couple, c'est des aventures, dans des choses dans la Québectitude, tu sais, qui est intéressant. Tu sais, il s'en va à pêche, il fait des affaires que tout le monde fait, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de degré de reconnaissance que j'ai tout le temps. Michel, ça a été le premier que les Québécois ont eu enfin quelque chose pour se reconnaître. Avant, on était complètement colonisés. Fait que ça, mais là, on s'éloigne, là.
Non, mais en fait, on s'éloigne pas tant que ça, parce que, tu sais, tu parlais de Red Ketchup tantôt, mais qui lisait Crow dans les années 80? C'était les jeunes adultes?
Ouais, c'est ça.
Hein? Les,
ouais,
les cégeps.
L'humour, ouais, c'est ça.
Donc, pour moi, la bande dessinée québécoise, de mon point de vue d'observateur puis de commentateur, peut-être que là où elle s'est rendue, c'est dans le jeune adulte, les jeunes adultes. Quand on regarde ce qui se fait aujourd'hui chez plusieurs des éditeurs comme Nouvelle Adresse, comme Front Froid, pour moi, c'est des bandes, c'est des éditeurs qui s'adressent à un lectorat jeune adulte qui a un certain pouvoir économique, qui fait ses propres choix, qui se dit « Bon, moi, Noël, je vais pas attendre le prochain Astérix comme quand j'avais 10 ans. Je vais m'acheter le nouveau Sam Quentin parce que... »
Exactement.
Voilà. Alors, pour moi, je dirais que dans la bande dessinée à l'extérieur du prisme jeunesse, là, avec évidemment l'Agent Jean, Aventurosaur et toutes ces séries-là, pour moi, il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'adressent à un lectorat jeune adulte. Et je crois pas me tromper en disant que dans les événements bande dessinée, c'est beaucoup cette clientèle qu'on voit.
Qu'on sollicite.
Qu'on sollicite, oui, que vous sollicitez. Donc, tu sais, jeune début trentenaire, fin vingtenaire, donc... certains qui ont une petite... qui commencent leur vie familiale, tout ça, mais... Mais quand j'ai lu Bacchus, je me suis dit « Ah oui, hein? Ah oui, c'est vrai. » Et tout à coup, j'ai compris ce réquisitoire de ta part qui se revendique d'une bande dessinée adulte. C'est qu'en fait, la bande dessinée adulte, c'est que là, c'est le récit d'un homme d'âge mûr. Mmh. Et quand je t'ai lu, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant parce que tout à coup, cet album-là pourrait... » Je sais pas si tu as eu des retours de lecteurs baby boomer, si tu as eu des retours de lecteurs dans la soixantaine par rapport sur l'album.
Non, ben, vu qu'on l'a lancé officiellement, ça fait quoi, 2 semaines? Là?
Ouais.
Ça te passe-tu vite? Ouf.
Mais je serais curieux d'entendre ce que cette génération-là de lectrices-lecteurs aurait à dire de ton album, parce que j'ai l'impression, oui, tu sais, on parlait de Michel Rabagliati, le grand génie du travail de Michel, c'est que chacun y trouve son compte dans les histoires, chacun trouve ses propres points d'ancrage.
Ben, c'est encore, tu sais, Michel, c'est un grand fan d'Hergé, puis Scott McLeod disait de la façon comment Tintin est dessiné, ben le lecteur peut se projeter. Puis je pense que dans le personnage de Paul, il y avait un petit peu de ça aussi. T'sais. Mais on se retrouvait...
Mais ceci dit, dans ton personnage, dans le personnage de...
Non, mais moi, je fais pas ça pour que tu te projettes dans mon personnage. Je te dirais que c'est plus en... Je suis un raconteur, fait que j'aime raconter des histoires.
Oui, mais on se reconnaît dans le raconteur. Quand comme spectateur, on autour du feu, ou on va au théâtre, ou on va au cinéma, le narrateur, là...
Bon, mais ça, c'est être franc vis-à-vis. Tu sais, quand t'écris, il y a une façon de parler du vrai. Puis, faisait que toi, il faut que tu sois transparent. Si tu caches des affaires, puis tu caches plein de choses, puis t'es tout pogné à l'intérieur, tu vas avoir de la misère à faire des histoires qui communiquent avec le lecteur. Mais si t'es franc, puis t'es honnête dans ce que tu veux, puis tu veux parler de la vraie vie, bien, c'est sûr que les gens vont se retrouver, là. Parce qu'ils vont t'entendre, dire oui, ça résonne profond, qu'est-ce qu'il dit en moi, tu sais. Fait que t'essayes, moi j'essaye, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, comme la Maison de regard, on a essayé ça, moi puis Alexandre, puis dans un style plus expérimental, tu sais. C'est comme si tu prends un album de BD, puis tu tires au tarot en même temps. Fait que c'est un peu weird, tu sais. Ouais. Mais c'est super fascinant et intéressant parce que l'interactivité avec le lecteur est autre puis différent. Puis c'est ça que je dis aussi, une BD pour adultes, c'est aussi une BD exploratoire qui essaye des choses. Puis si on veut évoluer, si on veut que la BD, tu sais, pour moi, la BD qui devient hyper commerciale, c'est la mauvaise voie. C'est une BD qui se développe plus avec des voix, justement, parce que ces voix, quand elles sont personnalisées, qui sont intéressantes, qui ont un propos à dire, bien, ils s'exportent. Puis là, tu as une BD forte qui s'exporte parce que tu as des auteurs qui s'en vont ailleurs. Tu sais, si tu exportes un produit puis une série, ça marche pas tout le temps, tu sais.
Oui, mais en même temps, moi, je trouve ça rassurant de savoir qu'au Québec, maintenant, on peut parler du fait que il y a une production assez dense pour qu'on puisse parler de classiques ou d'albums qui sont de facture plus classique et consensuelle. Donc, ça permet d'avoir un lectorat de fond, de base. C'est sûr que c'est pas tous ces lectrices et lecteurs-là qui vont aller vers des albums beaucoup plus exigeants comme le tien. Mais c'est là et ça existe.
Mais des fois, des albums comme ça, je pense qu'on a... Là, il faut développer un petit peu l'aspect critique. Parler un petit peu plus en profondeur de certaines affaires, plus d'analyse. De plus qu'il va en avoir, plus que les gens vont tomber sur l'analyse-là, plus qu'ils vont dire « Ah, c'est intéressant ça, je veux lire ça, ce livre-là, parce que ce qui parle, ce qui a soulevé, ça m'intéresse, ça vient me chercher profondément. » Fait que ça, je trouve, de plus en plus, parce que dans les journaux, je regarde, puis bon... Toi, t'en parles un petit peu, mais tu parles aussi d'autres sujets. Puis c'est un petit peu pareil. C'est comme on a eu un temps où on mettait de l'avant la BD québécoise dans les critiques, tout ça, beaucoup, beaucoup. Puis là, on s'est dit, ça elle va mieux, ça va bien. Il y a 95 000 personnes au FBDM, tu sais. Mais moi, je sais qu'en général, ouais, mais au Québec, on est encore peut-être... Il y a moins de 10 personnes qui gagnent leur vie avec la BD. Puis souvent, c'est eux qui gagnent leur vie, peut-être qu'ils sont publiés en Europe en plus. Fait que ça veut dire qu'on n'en vend pas assez encore pour dire « waouh, on peut en vivre, on peut faire fructifier ». Fait que c'est, il y a quand même une fragilité qui est tenue par plein d'artistes qui lâchent pas, tu sais. Parce que tu te vois comme l'Expo of Tout, tous les gens des années 90, toute ma génération, ben on lâche pas. Fait que c'est, on est increvable. Fait que ça, c'est le fun. Mais tabarouette, c'est quand même, ça reste, c'est pas facile, tu sais. Il y a des hits de temps en temps qui se vendent beaucoup. Mais en général, ça se vend pas tant que ça, tu sais. Moi, quand j'ai vu les chiffres de vente de Géant au pied d'argile, j'ai tombé sur le cul. Cet album-là qui est exceptionnel.
Ah oui.
Dont les droits ont été achetés par un éditeur américain qui fasse ce livre-là, figure de proue d'une nouvelle collection pour adultes. Puis, en même temps, je pense que c'est Gallimard qui va le publier en France.
Ah bon?
Fait que c'est... Ouais, ben, aux dernières nouvelles, là, je pense qu'il a été approché. Gallimard ou Sarbacane, je me souviens plus.
OK. Oh, t'sais, Sarbacane.
Mais tu sais, pour moi, quand j'ai vu ce projet-là, quand j'ai rencontré Alain puis Marc qui arrivaient avec ce projet-là, j'ai trouvé ça fantastique, ça n'existe pas. Bon, on sort ça, il y a eu quelques retentissements à Québec, mais ici, il n'y en a pas eu, tu sais, aucune critique, rien. Puis, tu sais, je pense que toi, t'en as parlé.
Ben oui, moi, je me suis... Moi, Marc, j'ai lu cet album-là. Et c'était clair que j'allais y consacrer une page dans le Journal de Montréal parce que c'est un album d'une très grande valeur. Puis d'une...
Mais ça va dans l'idée d'une BD pour adultes, puis on n'a pas vendu tant que ça.
Oui, mais Marc, au Québec, là, on vend de la bande dessinée à qui? Je vais te le dire à qui on vend de la bande dessinée. On vend de la bande dessinée aux institutions, donc aux bibliothèques scolaires et aux bibliothèques municipales. Et à la grande bibliothèque. C'est d'abord là que la majorité de la bande dessinée se vend. Parce qu'après ça, des lectrices-lecteurs qui poussent une porte d'une librairie pour aller acheter de la bande dessinée, les chiffres sont assez effarants. C'est okay. assez épeurant. Et je veux dire, moi, j'ai déjà été propriétaire d'une librairie.
Non, mais
je l'ai vécu l'expérience de ce que c'est vendre un album. Donc, il n'y a pas... Oui, oui, Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde a vendu. Oui, Les Pauls vendent. Oui, René Lévesque a vendu. Mais pour moi, c'est pas normal.
Boom aussi, hein. J'imagine Boom, oui, ça va rejoindre des chiffres comme Le Petit Astronaute. Là.
Ah oui, c'est sûr. Et puis elle a gagné beaucoup, beaucoup de ouais. prix. Donc, tant mieux. Mais là, il faut que ça incite une vague de fond. Tu ouais. comprends?
Mais des fois, je me demande, c'est ça. Est-ce que, tu sais, l'idée, c'est est-ce qu'un album comme Le Petit Astronaute va amener d'autres personnes à bande dessinée? Je suis pas certain, tu sais. Mais en même temps, c'est intéressant des avoir, ça soit disponible dès l'adolescence, tu sais, que. T'sais, mais je pense que c'est la même chose. Il faut être fier de nos artistes. Il faut les célébrer quelque part, les analyser, en parler. Puis de plus en plus, mais si ça se fait, ça va grandir exponentiellement parce qu'il y a quand même plus de colloques, il y a plus d'universitaires qui s'intéressent à la BD. Moi, j'en compte des gens que j'ai jamais vus qui dirigent des départements puis ils ont des études en bande dessinée. Fait que tout ça va rapporter peut-être dans 5, 10 ans, tu sais, 20 ans.
Mais... Oui, mais ça prend du temps.
Ouais, ça prend du temps.
Ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'un album comme Bacchus, qui est un, je le répète, là, qui est un tour de force, qui est un album... En fait, j'ai beaucoup de mal à parler de cet album-là parce que c'est à ce point généreux et à ce point sensible et intelligent. Tu sais, tout le rapport à l'histoire de l'art...
Bon, on n'a pas parlé de l'histoire de la BD, aux références, c'est ça. Tu sais, c'est ça, je dirais, je devrais dire à tes lecteurs de pas, là, je vous mets au défi de trouver les références à Jack Kirby, puis, tu sais, il y avait beaucoup, comme je disais, Casa, publié par Eric Losfield des années 60, 70, tu sais. Quand j'ai travaillé avec Chansigo, j'ai donné plein de références parce que je voulais que ça soit un petit peu fidèle à justement cette BD-là, tu sais, tout ce qui avait été fait, ça reproduise dans le fond. Même le premier chapitre pour ici, là, j'ai lu une biographie en bande dessinée de comment que ça, Patricia Highsmith, mm-hmm. qui était l'écrivaine qui Monsieur Ripley, tout ça. Là.
Ouais.
Puis dans un album, moi, c'était la même histoire dans le fond qu'on racontait. Elle, ça était écrivaine de bande dessinée, mais elle signait sous un nom d'homme parce qu'elle était gay, puis elle aimait les femmes, donc elle se retrouvait dans une situation un peu étrange avec entourée plein d'hommes, ce qui est normal. Puis je trouvais ça intéressant qu'elle était obligée de faire des personnages, puis amener à cette année, puis elle a écrit un roman. Fait que je trouvais ça... Il y avait quelque chose... Mais ça parlait surtout des années 30, 40, 50, le système américain, comment il était, puis comment elle, tu sais, travaillait avec des gens comme Will Eisner, tout ça. Puis je trouvais ça intéressant, tu sais. Puis moi, je voulais un petit peu parler de ça par rapport au rôle, la perception de la femme. Tu sais, comment... Tu sais, on sait, là, je lisais... Je suis en train de faire ma recherche, je continue sur Blake et Mortimer, puis là, on sait que l'école franco-belge, il n'y avait pas de femmes au début parce que Tintin, il vendait 10 000 copies aux internats de petits gars. Fait que là, les prêtres, ils disaient, ouais, mais mettez pas de femmes. Si vous mettez pas de femmes, on va en acheter 10 000. Fait que c'est comment ça, c'est le même. Fait qu'on fait des compromis pour de l'argent.
Ouais, c'est la censure.
Fait qu'on a enlevé les femmes pour vendre plus de copies de Tintin. C'est comme, c'est débile, ça, tu sais. Est-ce que, à ce moment-là, les éditeurs ont dit non, tu sais, vous allez les prendre parce qu'on, faites-nous confiance dans notre rapport tu sais, mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Puis nous autres, je me rappelle, j'étais jeune, je disais ça, puis on disait, pourquoi il n'y a jamais de femme dans Tintin? Puis la Castafiore, tu sais, ça...
C'est terrible, hein, quand on y pense aujourd'hui, que ouais. le seul personnage... Ben, en fait, un des seuls personnages féminins dans Tintin, parce qu'il y a son assistante... Mais
moi, je parle, regarde Cécotine avec Franquin dans Spirou Fantasio, où Franquin, il a mis une femme active, oui. journaliste, tu sais, qui se laisse pas. Puis je dis, ah, lui, il a réussi, pourquoi que les autres ne l'ont pas fait? C'est juste parce qu'il ne voulait pas, tu sais... Il y a quelque chose là-dedans d'un peu bizarre ou qu'est... En tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la place de la femme. Parce que Bacchus, là, c'est aussi l'homme, la femme, les relations. Puis je voulais un petit peu explorer aussi la perception de la femme, tu sais. Comment l'évolution. Puis je trouvais les années 50, tu sais, les femmes n'ont pas le droit d'écrire, tout ça. C'est juste un milieu d'hommes, la bande dessinée. Après ça, les années 60, ben là, les femmes ont commencé à rentrer. Parce que grâce à l'Underground a ouvert ses portes à tout le monde, ce que je trouve trouvais. Mais, fait qu'il y a eu plein, plein d'autrices intéressantes, d'artistes, tu sais. Puis ça évolue, puis je voulais que ça soit une perception qui évolue, puis là tu arrives les années 60, la drogue aussi, ça fait longtemps que je voulais faire des histoires sur la drogue, il a fallu que j'attende que le pot soit légal pour arrêter, parce qu'avant, ça aussi, tu prends ça, il fallait que tu condamnes ça, c'est démonise ça, parce que il n'y a rien de négatif, de positif dans ça, mais aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, il y a plein de documentaires sur Netflix sur les avantages de prendre du champignon magique pour les gens qui sont alcooliques, drogués, tout ça, puis... Bon, ben, tu sais, on en parle-tu? On peut-tu être un petit peu plus ouvert d'esprit puis aborder des choses qu'avant, c'était comme, ah, si, on dirait qu'on sort du Duplessis, veut, veut pas, là, d'un climat qui nous a, tu sais. Fait que tout ça, là, Bacchus et tout ça, dans le fond, mon attrait pour l'histoire reste, il est dans Bacchus aussi, tu sais. C'est peut-être pour ça que ça fait un album qui est riche, là.
Oui, qui est stratifié, comment je pourrais dire, c'est une revendication douce à la pulsion de vie. Moi, c'est comme ça. Dans tout ce que c'est, et une pulsion de vie, c'est infiniment personnel, complexe, pluriel aussi.
Ouais.
Et moi, je trouve ton album, en tout cas, de ma perspective à moi, je l'ai trouvé très inclusif. Et moi, je serais curieux de discuter de cette lecture-là avec des gens de différents horizons, genre... inclinaison, âge, pour voir quelle expérience en ont-ils fait de ce livre-là. Parce que voilà, c'est ton album, c'est une main tendue à tellement de niveaux. Puis aussi, ça se revendique d'une bande dessinée adulte, mais ça se revendique aussi de l'importance de l'art. Et à quel point, sans art, le monde n'est rien.
Hein. Ouais, ouais. Mais l'art, c'est le regard. Fait que t'enlèves l'art, tu vois plus rien. C'est, pour moi, c'est aussi simple que ça. On devient des aveugles. Puis il y en a déjà qui sont un petit peu aveugles. Là, fait que...
Ceci dit, c'est sûr que... Est-ce que cet album-là va être vendu... Est-il vendu en librairie, emballé sous vide? Ou
Je pense que non, parce que...
OK.
Faudrait que j'aille chez plein de BD. Non, je suis allé chez plein de BD l'autre fois, puis il était pas sous vide, tu sais.
Okay.
Mais moi, je pense que dans Bacchus, il n'y a rien de bien, bien choquant que j'ai pas vu ailleurs, mais à 10 fois plus explicite, c'est ça. Fait que moi, je m'en fais pas, tu sais. Je pense que ça me fait tout le temps penser aux derniers jungles où Ziviane a une photo d'elle tout nue, tu sais. Fait que, tu sais, dans son courage, qu'il n'y a rien qui a, tu sais, paf, let's go, j'y vais, tu sais. Puis je trouve que c'est des choses comme ça qui rend relax les gens vis-à-vis des affaires qui crispaient peut-être un petit peu avant, tu sais. Puis je pense que Bacchus, tu sais, tu peux lire ça, ça peut te... Mais après ça, tu vas être un petit peu plus en paix avec toi-même. J'espère, là, tu sais. Tu vas être capable de plus, tu sais, je sais pas.
Mais moi, je me suis senti stimulé. C'est comme s'il y a des portions de moi que je me suis rendu compte qui étaient un peu plus en veille ou en jachère. Et là, tout à coup, ça fait vibrer. Je me suis senti vibrant à la sortie de ce livre-là. Comme si ce livre-là... c'est le même commentaire que j'avais fait pour Le Géant au pied d'argile. J'ai vraiment eu l'impression que cet album-là, tu le fais pour moi. C'est comme si... Je sais évidemment que c'est pas le cas, mais je l'ai reçu comme ça comme lecteur. Je me suis dit, tiens, Marc me parle directement à moi, comme si ce livre-là est arrivé à un moment dans ma vie, comme pour Le Géant au pied d'argile, où c'est ça, où tu te dis, ah tiens, au-delà des qualités intrinsèques de cette œuvre-là, tout à coup, c'est plus loin, ça va ça touche dans l'intime et dans le personnel. Et je me suis senti très, très interpellé par cette lecture-là. Et je t'avoue que quand je suis embarqué dans cette lecture-là, j'avais aucune idée. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce projet-là.
Non, mais exprès aussi.
Oui, c'est ça. Et donc, j'avais aucune idée. Et là, je me suis vite rendu compte que j'étais parti en voyage sur un coup de tête en ayant préparé pas grand-chose, mais en me disant allons là où la route nous mène.
Non, mais c'est une aventure. Ça me fait penser à l'Odyssée aussi. Parce Manet, il voyage d'île en île, puis il sait plus trop. Il est un peu fucké, tu sais. Mais c'est ça, je pense que j'aime bien t'entendre dire que je trouve que c'est un livre vivant qui célèbre la vie, qui célèbre l'amour, qui célèbre l'être humain, puis la sexualité, puis la sensualité. Fait que, puis tout ça, ça rentre dans la rubrique extase.
Et c'est et puis je vais aller plus loin que ça.
Mais
je...
tu l'as dit, des pulsions de vie, tu sais, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, si ça donne ça, tu finis ça, puis ça donne une espèce de bam, une décharge, puis yes sir, je suis content, tu sais, ça m'a donné, ben c'est ça, parce que il me semble, à la fin, c'est comme, pour moi, c'est une incantation de renouveau. Tu arrives à un point dans ta vie, puis tu as des cycles, puis à un moment donné, ben, tout d'un coup, plutôt qu'arriver à une fin de vie, c'est plutôt une autre porte se rouvre, puis encore des choses magnifiques qui t'attendent. Fait que c'est comme ça te dit, ben, c'est pas fini, man, puis il y a plein de belles affaires. Fait que, tu sais, fait qu'il y a quelque chose là-dedans dans Bacchus qui représente ça, qui communique ça, j'espère.
Mais je trouve aussi que c'est l'extase de soi-même. Il y a ça aussi, moi, que j'ai vécu dans ce livre-là. C'est le rapport. Le rapport, mon propre rapport à moi-même comme être humain, comme et de l'importance de d'être ouvert et de s'aimer et de s'accepter. Tu sais, c'est difficile vieillir.
Ouais.
Parce que vieillir, ce qu'on gagne en maturité, ce qu'on gagne en perception sur le monde, ce qu'on gagne en acquis, ben on est aussi des êtres de chair. Mmh. Et la chair se flétrit et peu à peu aussi le corps perd de sa souplesse, perd, je veux dire, dès l'instant où on est, les premières cellules meurent. Ouais. Donc, il y a ça aussi.
Ben, il y a ça qu'on célèbre souvent, les corps jeunes. Puis les corps vieux, on les cache parce qu'ils sont plus beaux, tu sais. Des seins qui pendent, c'est plus beau, tu sais. Des fesses molles, c'est plus beau, tu sais. Mais quelque part, tu sais, l'être humain dedans, il est aussi vivant, il est aussi beau, il est aussi sexy. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. En plus, un livre, ben, c'est du dessin, c'est de la photo, c'est de la surface. T'sais. Fait que comment, c'est ça. Ben, acceptation, tu sais, il y a beaucoup d'acceptation là-dedans dans Bacchus, tu sais. Moi aussi, tu sais, mon corps, j'ai eu des rapports conflictuels, tu sais. Je suis gros, je suis pas, tu sais. Je suis comme format hobbit, fait que je suis plus écrasé, tu sais. Fait que c'est pas un, tu sais. Puis des fois, homme comme femme, on est habitué à des images de représentation de corps, de perfection, musclé, tout ça. Moi, ça me fait toucher ces affaires-là, tu sais. Quand je travaillais comme photographe, assistant photographe avec des shoots de mode, c'est un moment j'étais comme, ah si, c'est débile, tous ces corps-là. Cette image qu'on projette de perfection qui est par des gens qui ne sont pas nécessairement parfaits, puis c'est pas ça. T'sais, on n'est pas comme ça, mais on en prend quelques-uns, puis c'est comme tout le temps l'élite qu'on veut représenter, puis on veut. T'sais, comment on vise l'élite, on veut plus haut, mais c'est pas ça. T'sais. Le corps est beau, les gens sont. Tu sais, un photographe comme Joel Peter Witkin, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Joel Peter Witkin, c'était comme. Il faisait des photos religieuses, mais dans le sens qu'il prenait des corps difformes, des corps morts, il mixait tout ça ensemble. C'était des images vraiment éprouvantes, choquantes, mais d'une beauté artistique foudroyante. Puis moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc parce qu'il me présentait des gens qu'on considère pas beaux selon les standards, mais qui étaient magnifiques. Puis ça, ça a fait un déclic jeune quand j'ai tombé sur cette photographie-là. J'ai dit, Christ, tu sais, on est capable de montrer des choses différentes puis les montrer belles. Si on les présente dans un contexte artistique, on va faire passer la pilule, tu sais. Puis c'est intéressant de montrer une diversité, puis c'est ça. Je pense que moi, ça reste tout le temps la diversité montrée. Puis, tu sais, en tant qu'artiste, ben, on est les premiers sur la ligne à devoir faire l'effort de montrer cette diversité. Puis, je pense qu'il y a un petit peu d'essai de Bacchus de fouiller le corps, sa représentation, puis montrer comment ça l'a changé au fil des ans. Puis, comment ben, tu le vois dans l'histoire à la fin, tu vois, on part des représentations vraiment mythologiques. Mm-hmm. Les plus vieilles, on monte dans les siècles, puis on arrive à la fin des années 60-70 où que ça éclate complètement. T'as Nikita Saint-Phalle, t'as plein d'artistes d'aujourd'hui que le corps est représenté, mais d'une façon différente, tu sais. Puis il y a de la joie, tu sais. Je pense pour moi, les années 60, puis toute l'éclosion d'artistes, de barrières qui étaient enfoncées, c'était avec la joie, c'était joyeux, c'était inspirant. Puis je pense que moi, comme je suis né dans les années 60, puis je ne l'ai pas vécu, ben comme bien du monde, j'ai tendance à retourner à cette décennie-là puis la trouver super intéressante, 60-70, parce qu'il s'en est passé des affaires ici, partout dans le monde, au Québec, tu sais.
Oui, puis dans tous les domaines artistiques, ouais. Dans tous les domaines de la société, en fait.
Mmh. Ben, tu parlais de mon petit BD, musique, tout ça. Ouais. C'est là que les Québécois ont commencé à plonger dans une identité propre, à encourager les artistes d'ici. Il y en a des affaires.
Ben, c'est un album à ton image qui est généreux, qui est franc, qui est fouillé. c'est une lecture adulte dans tous les sens du terme. Et je considère, moi, que c'est un album qui est tout aussi déroutant qu'il est important. Et j'aimerais vraiment te féliciter pour ce travail-là, parce que... Puis je veux même pas parler d'audace, parce que pour moi, on n'est même pas dans l'audace avec un album comme ça. On est ailleurs. L'audace, ce serait trop... Je pense que ce serait trop réducteur. Ce serait trop en surface que de...
Ouais, c'est plus réflexif. C'est d'autres choses.
C'est introspectif.
Mais je trouve que c'est un livre le fun pour des couples aussi, des couples plus qui vieillissent, tu sais, qui questionnent par rapport à leur relation, tout ça. Ouais. Il y a des choses là-dedans, C'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis, en tout cas, mais la forme, tu sais, on n'a même pas parlé de la forme, le fait que tu as des sections de portfolio photo de Bacchus, tu sais. En fait, l'idée première, c'était vraiment de montrer l'art de Bacchus. Dans le fond, c'est une fiction, de créer un univers. C'est ça qui est intéressant. Un personnage, tout son univers artistique autour, là.
Et pluridisciplinaire, c'est ça aussi la beauté de la chose. Parce que, tout à coup, c'est... ça ajoute de la dimension. Malgré le fait que le travail de Jean-Pierre Chansigaud est vraiment admirable là-dedans, je pense pas que cet album-là aurait gagné en perspective à n'être que de la bande dessinée. Je pense qu'au contraire, le fait de traverser cet album-là et de traverser autant de disciplines artistiques différentes, ça permet de renforcer, de justifier et de glorifier chacun de ces médiums-là. Quand on arrive dans un passage en bande dessinée, c'est comme ça, on se sent tout à coup soufflé. Quand on tombe dans la prose, même chose. Quand on tombe dans la photo, dans le photomontage aussi, dans la juxtaposition, la construction de l'image, c'est la même chose. Et tout ça est tellement... C'est habilement... Comment je pourrais dire? C'est dosé, c'est de l'alchimie, c'est de l'orfèvrerie, c'est de l'horlogerie, en fait. Pour moi, cet album-là, j'ai un grand-père qui était horloger, et pour moi, c'est de l'art, parce que, oui, c'est de la mécanique, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein? C'est chaque petite pièce qui s'imbrique l'une dans l'autre, qui est à la fois forte et fragile.
Mais là, tu me fais penser à Watchmen.
Ah, ben oui.
Parce que tu sais que le père de. Le personnage qui est bleu, qui devient un dieu, s'il faisait des montres.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
T'as des séquences où tu vois l'intérêt des rouages. Les rouages quand il veut faire quelque chose.
Tu vois, moi, Marc, là, j'ai l'image de mon grand-père paternel qui toute sa vie a réparé des montres et des. C'était un horloger. Et qui était vraiment. Qui travaillait dans une espèce de calme, puis un peu comme un chirurgien qui travaillait avec des tout petits outils, et tout était réfléchi, tout était pesé, tout était... Il était vraiment en immersion totale. Et c'est drôle parce que j'ai aussi pensé beaucoup à ce grand-père-là en lisant l'album, parce que justement, il y a de ça, il y a une telle dévotion dans ce livre-là. C'est pas quelque chose qui se fait par-dessus la jambe ou sur le bord d'une table là, de cuisine. Là. C'est quelque chose qui t'a exigé cet album-là. C'est le don de soi.
Ouais.
C'est ça.
Parce que moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'instinct dans la création. T'sais. Rendu où j'en suis, j'ai souvent des idées, puis je me laisse emporter par le projet plutôt que tout contrôler.
Ben oui, de toute façon, l'instinct s'appuie sur les acquis,
ouais.
S'appuie sur l'expérience. Alors, c'est sûr que ça, c'est l'œuvre d'un auteur... qui a du vécu. Et la preuve, c'est que tu n'aurais jamais pu faire ça à l'époque, à l'âge où tu as fait La Maison du Regard avec
Alexandre.
Non,
c'est exactement.
Évidemment.
Puis cet album-là aussi me libère pour faire d'autres choses. C'est comme là, tu sais, la prochaine BD, ça va sûrement être une BD de genre, que ça va être intéressant, mais tu sais, s'attaquer à ça, c'est le fun. Puis c'est un beau défi. Puis c'est ça, j'ai sorti ma BD pour adultes, là, je vais faire d'autres choses. T'sais. C'est le fun d'essayer de ne pas être. T'sais, moi, c'est tout le temps l'idée de encore là, je reviens à désœuvrer. Je parlais des vieux auteurs, désœuvrer de Trondheim qui interviewe des vieux auteurs d'école franco-belge qui ont toutes fait des dépressions parce qu'ils ont dessiné la même affaire. Parce que c'est dur, faire de la BD, c'est une pression. Mais c'est ça, moi, je suis pas intéressé à faire la même affaire. C'est comme, je pense que c'est ça un petit peu le travail différent d'un auteur qui préfère avoir une démarche, c'est faire ses propres projets. Puis ça m'intéresse pas de faire. Ouais, une BD de genre, ça m'intéresse. Je vois si je peux capable capable de rejoindre bien du monde. Mais je l'ai vu que ça marche avec René Lévesque, mais c'était René Lévesque, là.
Ben écoute, on va te souhaiter beaucoup de plaisir pour la suite.
Toujours.
Parce que plus tu auras de plaisir à le faire, plus on aura de plaisir à te lire.
C'est ça, le plaisir se communique au lecteur, c'est bien important ça.
Ben, et je voudrais terminer sur ça, c'est que on parlait d'entrée de jeu, de performance hein, en début d'entrevue, et c'est ça aussi ce livre-là. C'est que c'est une performance, tu as réussi à faire de l'art vivant. C'est comme lorsqu'on sort d'un concert ou d'une pièce de théâtre, et qu'on a été complètement éclaboussé, soufflé, et c'est ça, et c'est de cet ordre-là aussi, ton album, et je voulais vraiment t'en féliciter. Alors, Marc Tessier, bravo, merci.
Ben, merci Jean-Dominique, ça me touche beaucoup tes paroles.
Et longue vie, et je te souhaite encore beaucoup d'extase.
Yes, sir.
Pour suivre Marc Tessier, rendez-vous au instagram.com/mactingtac. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt!